Bonjour à toutes et à tous. Et oui, la voix dont vous avez l'habitude dans l'introduction de Serial Causeur n'est pas là, mais le chef Tom a décidé de donner du boulot à ses employés, pour une fois. Pas de panique, c'est temporaire. Donc votre hôte habituel est toujours là, il a juste décidé d'abdiquer au profit d'un de ses dauphins, moi, Maxime, pour une émission royale, puisque nous allons parler d'une obsession qui court depuis au moins 13 ans chez Serial Causeur, Robert et Michel King.
Ouais,
il me tarde.
Et pour parler de ces de ces deux showrunners roi et reine de la télévision américaine, j'ai avec moi.
Franchement, c'était un très très beau lapsus quand même.
C'était écrit noir sur blanc, je suis sûr.
Pas du tout, tout est d'impro. Enfin, les cours de théâtre payent. Ouais. Donc, je disais donc, j'avais avec moi leur fils naturel ou presque, Stéphane.
Non, arrête, je vais rougir.
Et une avocate où même après 8 saisons de Serial Causeur, on ne sait toujours pas si elle est talentueuse ou arnaqueuse de talent, Akiti.
Coucou.
Mais du coup, c'est qui les Kings? Et est-ce que Regina est leur fille?
Oh là là, ça aurait été tellement bien, mais ça aurait été tellement bien, la famille de fous.
Merci, j'ai pas besoin d'expliquer la blague parce que ça aurait été vraiment humiliant. Bon, on va partir sur la partie biographie. On va la faire courte parce que ça n'intéresse que les examinateurs du bac de français. Donc, qui sont Robert et Michel King? On peut retenir une date, 1987. Pourquoi Stéphane?
Parce que je suis né cette année-là.
C'est vrai que t'es né en 87?
Oui. Bah, okay. Oui. C'est gentil de retourner ma date de naissance. Non, mais je ne sais pas.
C'est faux. C'est faux. C'est la rencontre entre Robert et Michel.
Ah, oh ben, franchement, c'est... Ah oh ben, voilà. Moi, voilà. Je dis c'est le destin, quoi.
Et d'après vous, où est-ce qu'ils se sont rencontrés?
À New York. Oh, non, à Broadway.
Moi, je les vois bien en cours ensemble, ouais.
Et non, ils se sont rencontrés dans un magasin de chaussures de sport.
Oh putain. Excellent.
C'est un magasin où travaillait Michel pendant ses études à UCLA, donc à Los Angeles, pas à New York,
où
Robert faisait également ses études.
Ils auraient pu se rencontrer à l'école, alors. Hein. Voilà, franchement.
Quasi, t'es à côté.
Il a trouvé chaussures à son pied.
Ah, chouette, c'est pas moi qui aurai les blagues de merde ce soir. Donc, Robert, à l'époque, il avait déjà écrit quelques petits trucs pour le cinéma, notamment un film d'horreur qui s'appelle The Nest, et il s'est fait la main durant les années 90 sur plusieurs projets qui font vraiment, mais vraiment pas envie. Du coup, j'ai inventé un petit quiz, il y aura juste une question.
Ah bon.
Parmi ces titres, lequel n'est pas un projet sur lequel Robert King est intervenu? A, Vertical Limit, B, Blood Fist, C, Fire Maidens from Outer Space,
ou D,
Dragonfire.
Je crois que j'ai vu Vertical Limit, c'était pas avec Robin Tunney?
Ils existent tous.
Je sais pas, le dernier.
Non, Blood Fist, parce que ça me fait penser à un truc sexuel vraiment très crade, et donc voilà.
Eh bien non. C'était Fire Maidens from Outer Space.
Mais c'est quoi ça, Fire Maiden, je sais pas quoi là?
C'est un film obscur des années 90 qui, je pense, n'intéresse personne.
Si, maintenant si, une personne au moins.
Bref, du coup, Robert et Michel se rencontrent en 87, ils s'aiment pendant de longues années, ils ont peut-être des enfants, j'ai pas vérifié. Mais le fait important ensuite, c'est que Michel se met à l'écriture, enfin. Avec son mari, en 2006, avec quelle série, d'après vous?
Ah, c'est le truc avec...
C'est
avec,
le truc, déjà un truc judiciaire, là.
Oui, avec l'Australien, de The Mentalist. Ah, j'ai oublié son nom.
Ah, j'ai oublié le nom de la série.
Tu te trompes d'acteur, mais vous avez la série juste. C'est une série judiciaire.
Oui, c'est pas avec le nom de la série.
The Mentalist.
Injustice.
Ah oui, c'est ça, Injustice, oui.
Et du coup, avec Injustice, on découvre qu'ils ont une passion commune, le système judiciaire américain. Et aussi les grands acteurs.
Vas-y.
Donc, c'était pas le gars de The Mentalist, c'était Kyle MacLachlan.
Ah.
Jason O'Mara.
Oh, voilà.
Et Constance Zimmer.
Ah oui.
Bah, dis donc.
Donc, ça a duré que 13 petits épisodes et ça racontait en gros l'histoire de personnes accusées à tort. Et cette petite équipe d'avocats devait chercher à les faire sortir de prison.
Ouais, enfin, un truc assez bateau qui revient assez régulièrement à la télévision américaine, quand même.
Exactement. Et après, du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur une autre petite série qui fera pas de bruit du tout, qu'on ne remettra pas du tout sur le devant de la scène, deux actrices monumentales, qui n'est toujours pas d'actualité parce qu'elle a un spin-off. Vraiment un projet tout pourri. Hein. Ouais. Donc cette petite série de rien du tout, c'est notre grand 1, le début d'une passion. Stéphane, c'est quoi ?
The Good Wife.
Et c'est quoi The Good Wife ?
C'est la meilleure série au monde.
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte l'histoire d'Alicia Florey qui est plongée dans un scandale sexuel à cause de son mari qui couche à droite et à gauche. Il est envoyé en prison et elle est obligée de reprendre son métier d'avocate. Non, mais en plus, son métier, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle travaillait vraiment ?
Si, elle l'a travaillé.
Un petit peu avant de devenir maman ?
Ouais,
sûrement. Donc, elle reprend son métier. Et elle est embauchée par un de ses anciens crushs de l'école de... Même ils ont couché ensemble, je me souviens.
Non, ils n'avaient pas couché ensemble à l'époque.
Ils n'avaient pas couché, voilà. Donc voilà, elle est embauchée dans un cabinet Lockhart & Gardner. Et puis on va suivre toute sa vie politico, amoureuse, professionnelle et tout, familiale.
Et est-ce que c'était bien ?
Mais c'était plus que très bien. C'est l'une des grandes œuvres des années 2000.
Voilà. C'est vrai qu'on n'a plus ça maintenant, hein, avec 22 épisodes en plus.
Si, il y en a, mais tu ne les regardes pas, c'est pas pareil.
Ouais, si tu me cites un truc nul, non merci quoi.
Bah, New Amsterdam, bon... Elle
est... Bah, je regarde New Amsterdam.
Ah bon ? Oh, ah, c'est ouais. Mignon. Voilà.
Alors, pour rectifier, des années 2010 plutôt, ça a commencé en 2009.
Ouais, oui, c'est vrai.
2009-2017.
Je viens de prendre un petit coup de vieux là. Oh la vache, ça fait 13 ans déjà.
Voilà. Exactement. Et toi, Aki, est-ce que tu as vu The Good Wife ?
Bah oui, évidemment. J'avoue que sur le papier, quand on le raconte comme ça, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose et que c'est pas hyper intéressant. On croirait juste un drame presque soapesque. Mais franchement, ça va plus loin que ça et c'est ça qui est bien.
Bah, c'est surtout que ça aurait pu l'être. Mais on ne connaissait pas ces scénaristes-là et ils en ont tiré quand même ils ont tiré le meilleur parti du pitch de départ, quoi.
Clairement. Mais j'avoue que je m'en rappelle pas du tout comment j'ai commencé la série, mais j'ai pas commencé à la saison 1 en tout cas, parce que je trouvais que le titre était pourri. Et je pense que j'ai dû commencer seulement en saison 2 ou 3. Voilà.
C'est justement quelque chose qui est arrivé très souvent, je pense, avec The Good Wife, où beaucoup ont commencé, ont vu le pilote, se sont arrêtés là parce que le pilote vendait plutôt. Il vendait plutôt bien la série, mais c'était pas la série qu'on allait avoir par la suite. Ah
ouais. Mais c'est normal ça.
C'est normal, mais quand on commence sur une série procédurale, c'est toujours un peu compliqué de ramener des personnes qui vont revenir après 13 ou 22 épisodes.
C'est sûr. Oui, vu comme ça, d'accord, je l'entends.
Mais du coup, à quel moment c'est devenu très très bien, The Good Wife ?
Je pense qu'il fallait quand même 5-6... Enfin, c'était milieu de saison 1, je pense que là, ça commence déjà à devenir plus intéressant.
Moi, je peux te citer l'épisode 14 avec qui s'appelle Hi, salut, un peu, parce que je dois avoir un accent tout pourri, donc on aurait pu comprendre que je voulais dire oh.
Ou défoncer.
C'est la fin de l'épisode 14 qui a fini de sceller mon histoire avec The Good Wife. Maintenant c'est plus un spoiler, c'est quand Peter sort de prison et qu'il est à la porte, il frappe à la porte, elle ouvre la porte, elle voit son mari, il lui fait hi et voilà. Et à ce moment donné là, oui parce que alors, je sais pas si on va en parler ou pas, mais j'aime beaucoup Peter.
Oh là là.
Oui, je sais, je suis un peu seul sur ma planète, mais j'aime beaucoup Peter Flory et moi à ce moment donné, ce moment entre les deux personnages a fini de me conquérir. La série était très, très bien, elle s'améliorait d'épisode en épisode, mais alors ce moment donné-là a été assez crucial. Ça a cristallisé pas mal de choses, quoi, de mon amour pour The Good Wife. Quoi.
Mais comment on en arrive à aimer le pire personnage de la série ?
Mais parce que c'est le... non, je peux pas. Non, il y a des trucs que je peux pas dire. Mais
vas-y, en fait, là, couche.
Non, mais je trouve que Peter est... a beaucoup, beaucoup de points communs avec mon père. C'est atroce. Mais en fait, je trouve que la relation entre Alicia et Peter, ça m'a fait beaucoup penser à la relation entre mes parents.
Pas du tout un compliment, franchement.
Non, clairement pas, mais ce n'est pas que ça. Il y a certains points, il y a certains de trucs, et voilà. Et je crois que j'ai fait un transfert. Si on peut se poser la question, je crois que j'ai fait un transfert sur Peter.
Et toi, quelle est ta relation avec Peter ? Ou le père de Stéphane.
Oui, c'est ça.
Non, mais elle est inexistante. Franchement, si on avait pu s'en débarrasser plus tôt, ça aurait été genre plus que bienvenu. Je pense que ce que j'ai plus apprécié... Je pense que, enfin, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, pour le coup. Je crois que vous avez fait un rewatch récemment, non?
Ouais, l'année dernière.
Pendant le Covid.
Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'au début, c'était quand même très, très procédural, au début, dans mes souvenirs.
Oui, en effet, il faut au moins arriver jusqu'à la saison 2 et...
Voilà.
Oh, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'histoires. Alors, c'est des histoires avec Peter et ses problèmes judiciaires, mais il y a quand même un gros fil rouge et... Bon, je sais pas.
Toujours un fil rouge, je suis d'accord, mais je trouvais qu'il y avait quand même un peu presque le cas de la semaine, notamment quand Alicia essaye de trouver sa place chez Lockhart et Garner, quoi. Enfin, elle assiste beaucoup de cas, quand même, et là, je trouvais... Bon, on s'y perdait, mais il y avait quand même bien sûr des guests qui revenaient récurrents, etc. Et ça aussi, c'est l'une des forces de la série, je trouve.
Bon, on peut dire aussi que la saison 1 est vraiment une saison introductive à tout l'univers de la série et à tous les personnages, parce qu'il y en a beaucoup, et que c'est aussi la base de tout ce que va être la série par la suite.
Oui, et puis l'un des meilleurs personnages arrive quand même en fin de saison 1, hein, donc...
C'est Eli qui arrive fin de saison 1,
oui.
Ça
ouais. Oui. Mais quand, une fois que Peter est sorti de prison et qu'il a besoin de redorer son blason, il engage Eli, quoi.
Mais je crois que l'aspect politique de Peter, en tout cas, je ne parle pas de l'aspect politique plus tard d'Alicia, c'est ce qui m'a le moins intéressé. Ah si, il y a les gamins aussi, c'est eux qui étaient les moins intéressants, j'ai presque oublié.
Non, mais le pire, c'est Grace, mais Grace qui nous a saoulé avec sa religion pendant toute la saison, enfin toute la série.
Oui, parce que la religion, il me semble que ça apparaît un peu plus tard dans la série, son pronom religieux.
Mais, il y avait la grand-mère aussi, je l'ai presque oublié, qui était cool aussi.
Jackie.
Ouais.
Et quel est votre personnage préféré dans The Good Wife?
Grande question. Hein. Extrêmement dur.
Franchement, c'est dur, parce que c'est ça ce qui est paradoxal. Bien sûr, il y a des personnages principaux que j'adore, mais il y a vraiment des personnages secondaires, mais qui sont incroyables pour moi.
Ouais, Robin.
Robin. J'avais presque oublié, pardon. Mais oui, Robin. Rip, Robin, j'ai envie de dire.
Franchement, Alicia, elle aura toujours une place dans mon cœur.
Kalinda aussi, hein, quand même, faut pas exagérer.
Je ne l'ai pas dit, mais Alicia n'aura quand même une place plus importante, parce qu'elle, au moins, elle est restée jusqu'au bout.
En même temps, ça s'appelle The Good Wife, pas The Good Mistress, quoi.
Mais bon, après, il faut dire que... Comment elle s'appelle? Mais c'est pour ça qu'elle brille tout autant, mais... Diane Lockhart, Christine Baranski, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on était très contents d'avoir un spin-off avec Diane.
Moi, personnellement, c'est Alicia, parce que c'est la série.
Ouais.
C'est ce Good Wife.
Son âme, quoi. Enfin,
elle est forte, quand même. Ouais. Hein. Franchement, Juliana Margulies, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas du tout le même personnage qu'elle a pu jouer auparavant. C'est vraiment un personnage différent. Et elle tient la barre dans les... combien de saisons? 7 saisons.
7 saisons.
Ouais. Ouais.
Et d'après vous, c'est quoi la recette, en fait, des Kings pour arriver à faire une telle série judiciaire, procédurale, sur CBS?
Tu veux dire qu'il marche?
Oui, qui fonctionne.
Les personnages, vraiment, pour moi, leur force d'écriture, ça réside vraiment dans les personnages qui se développent. Au début, tu les suis même pas forcément dans leur vie quotidienne. Certains, enfin, juste Alicia au final, hein, parce qu'on suit pas vraiment Carrie, on suit pas vraiment Diane, etc. Mais pourtant, on peut pas s'empêcher de vouloir en savoir plus. Et eux, ils sont tellement bien écrits qu'il y a une véritable évolution alors qu'ils ont moins de temps à l'écran, quoi. Je trouve que ça marche vraiment leur dynamique de groupe. Et chacun.
Je pense que ça a été l'audace, une certaine audace dans l'écriture. Que ce soit des cas, parce que c'est quand même des choses vraiment très particulières de la justice américaine qui sont quand même mises en avant.
Au début, c'était pas trop le cas, hein. Franchement. Je
non, pas trop. Non, mais
4, 5, oui. Mais au début, c'était vraiment pas le cas.
Ah bah, il y a eu de l'audace qui est venue quand même au fur et à mesure des épisodes. Je pense que c'est ça qui fait tout le sel, parce que. Ça se répercute sur les personnages. Les intrigues font en sorte que les personnages deviennent intéressants, de ce qu'ils racontent et ce pourquoi ils se battent deviennent intéressants. Et ils se sont jamais rien refusé, quoi. Même quand contraints par les départs de personnages, les départs d'acteurs, les scénaristes ont continué à faire preuve d'audace, quoi. Bon. pas toujours de la réussite, hein, on va pas se mentir. Sur les 7 saisons, il y a quand même des intrigues qui étaient quand même pas forcément très très bonnes, mais il y a eu d'audace, quoi. Et c'est ça, c'est pour ça que je crois que je les aime beaucoup. Et c'est ça qui fait que la série se démarquait de tout ce que pouvait produire CBS et même tous les networks américains, quoi, à l'époque.
Ce qu'il faut dire aussi, Stéphane, quand tu parles d'audace, c'est que c'est la manière dont ils ont pris le système judiciaire américain, qu'ils l'ont totalement déconstruit pour regarder tous les endroits, soit ouais, où il ne fonctionnait pas, soit où il y avait des spécificités qui rendaient la chose totalement absurde, ouais, ou digne de créer du scénario.
Alors, je trouve que ça, en plus, enfin, personnellement, hein, je trouve qu'ils le font beaucoup plus quand même sur The Good Fight que sur The Good Wife. Mais c'était des prémices, quoi.
Ah. Ouais.
C'est là où je te rejoins pas. Pour moi, dans The Good Fight, le système judiciaire est plus du tout le sujet. J'avais gardé ça pour plus tard, mais on peut commencer à en parler. Pour moi, c'est plus du tout le sujet. On ne regarde plus enfin, en tout cas, dans les dernières saisons, peut-être sur la première de The Good Fight, mais on ne regarde plus là où le système judiciaire américain est particulier, là où on va découvrir certaines procédures, certaines manières de faire dont on n'a pas l'habitude à l'écran. Je prends, moi, par exemple, un de mes épisodes préférés, c'est Red Team, Blue Team. Où on voit,
excellent, oui.
On voit un entraînement de procès, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et là où je te rejoins, c'est qu'ils utilisent ça pour construire les personnages, parce que dans le même temps, pour replacer les personnages, c'est Alicia et Carrie contre Diane et Will, donc les mentors contre les petits protégés, et chacun est en colère contre un membre du groupe d'en face pour une raison personnelle ou professionnelle. Et la manière dont ils arrivent à lier les deux, moi, c'est là où je pense que c'est cet épisode où je me suis dit « Ok, là, on est devant une très, très, très grande série. »
Tu te souviens quelle saison c'est ?
C'est la saison 4, épisode 15 ou 16, je crois.
Les gens qui connaissent The Good Wife le savent, mais... la meilleure saison de la série, c'est quand même la saison 5. C'est pour dire à quel niveau ça a été progressif pour arriver jusque là, quoi. La saison 5, ils exploitent tout ce qui a été fait pendant 5 saisons avant. Enfin, c'est juste magistral. Enfin, du premier épisode jusqu'au 22e, c'est magistral.
Voilà. Donc, du coup, Maxime, pour répondre, je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur The Good Fight, parce que littéralement, la dernière saison, on rentre sur le système judiciaire américain.
Sur la défense, mais c'est même pire, parce que c'est la justice qui ne sert strictement plus à rien.
Et là, tous ces paradoxes, tout ce qui ne fonctionne pas, quoi, vu qu'ils veulent recréer un nouveau système.
Pour moi, non, ils se concentrent sur ce qu'est devenu la démocratie et ce que ça a fait à la justice, plus que ce que la justice est. Parce que clairement, le fait que cette intrigue où il y a un faux tribunal mené par un propriétaire de magasin de photocopie.
Et en plus, je suis même pas sûr qu'il soit propriétaire, en plus.
Oui.
Non, il l'est pas, il le dit clairement.
Alors, un employé de magasin de photocopie, et en fait, on voit à quel point on a poussé tous les systèmes démocratiques à bout pour en arriver à on va se faire justice nous-mêmes, nous n'avons plus besoin d'institutions, nous n'avons plus besoin de gouvernement.
Mais la question, c'est, comme a dit Aki, c'est parce que la justice ne les satisfait plus. C'est parce qu'ils pensent que c'est trop long, parce que les peines sont pas assez sévères en fait, avec les riches et trop avec les petits. Enfin, c'est parce que la justice ne sert plus à rien que ce système-là parallèle s'est créé. Et ça veut dire, et d'ailleurs, qui est inspiré d'une histoire plus ou moins réelle, parce qu'en même temps que c'était diffusé sur Paramount Plus, là. Oui. Je sais plus si ça s'appelle toujours Paramount Plus, oui, c'est ça. Parce que je me souviens encore de l'article partagé par Robert King sur Twitter, où il y avait des cours parallèles comme celles que eux, ils avaient imaginées dans la série qui était en train de se créer, aux États-Unis, quoi. Enfin, c'est pour te dire à quel point ils sentent aussi la réalité et qu'ils sont intelligents, quoi. Ils ont réussi à capter ce qu'était l'Amérique et à quel point elle était en train de dériver, quoi.
Bon, de toute façon, nous parlions de The Good Wife.
Oui, c'est vrai.
Alors, du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la série de sa saison 1 à sa saison 7, sauf le final?
Il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est quand même un milieu vachement précis, enfin, très privilégié, très blanc, etc., dans The Good Wife. Et pourtant, ça n'empêche pas que grâce aux affaires, du coup, enfin, aux affaires judiciaires, on arrive quand même à s'ouvrir beaucoup plus sur toute la société. Et bah, c'est ça qui est sympa aussi, quoi.
Mais de quelle manière ils le font, selon toi ?
Bah, comment ça ? Bah, dans le sens où ils se focalisent sur une affaire peut-être plus, entre guillemets, populaire, que ce soit d'actualité ou juste un pro bono qu'ils ont sous la main, on va dire. Et voilà, et ça décortique, voilà, ça décortique un peu ce qui peut se passer, quoi.
C'est pourtant ce qu'on leur a beaucoup reproché à l'époque de la diffusion de la série.
D'accord.
Qu'on soit d'accord ou pas, mais on leur a reproché, c'était de justement montrer les minorités toujours sous l'angle soit de la victime, soit de l'agresseur, mais jamais de la personne qui travaille, hormis Kalinda.
Donc et Julius, quand même. Hein,
et Julius. Oui, mais Julius qui est.
Lui, c'était encore un cas à part. Hein, pour
oui,
le
oui coup, surtout qu'il était noir et républicain, ouais, et oui, il vote pour Trump, donc voilà quoi, mais bon, après.
Donc, et ça, c'était bien d'ailleurs, j'avais trouvé, parce qu'en vrai, il y en a plein. Hein.
Oui, oui.
Alors, je crois qu'on apprend qu'il vote pour Trump que dans The Good Fight.
Non. C'était genre le running joke. Enfin, running, pas running gag, mais c'était un gros truc déjà avant.
Oui, mais parce que la série s'est terminée en 2016. Donc, oui, forcément. Enfin, The Good Wife s'est terminée en 2015 ou 16. Ouais,
2016.
Et donc, c'était avant l'élection de Trump. Donc, forcément, on savait qu'il soutenait, il devait soutenir Trump.
Okay,
et encore plus après l'élection dans The Good Fight, où oui. En effet, il lui en voulait parce qu'il avait voté pour lui.
Et d'après vous, c'est qui le pire personnage ?
Le pire dans le sens objectivement pire, ou le pire que nous-mêmes on déteste ? Parce qu'objectivement pire, je pense qu'on peut pas, on va être d'accord dessus, non ?
Non, c'est pas
pire. Ah ouais ?
Non, tout dépend de ce que t'allais dire.
Bah, c'est David Lee le pire.
Ah oui, voilà, David Lee.
Ah, oui.
Alors, ben non, moi il y en a un qui. Ben, c'est parce que j'adore l'acteur, mais Mike Christiva, joué par Matthew Perry, est vraiment aussi une pire raclure.
C'est
vraiment une grosse raclure. Mais David Lee, il est là, mais en fait, on sait qu'il a un bon fond, je pense. Je crois.
Non, il n'a pas bon fond du tout. Hein. Non, vraiment pas. Tu vois, tu creuses un peu, tu penses qu'il a bon fond, mais tu continues à creuser, tu t'aperçois qu'en fait, il n'a pas bon fond.
Alors, moi, je pourrais presque rejoindre Stéphane, c'est que dans la saison 5, épisode 17, je crois, quand on apprend, tous les personnages apprennent un événement tragique, la mort de Will, sa réaction est peut-être celle qui m'a le plus bouleversé quand l'épisode a été diffusé. Parce que justement, de cette ordure-là, tu t'attends pas à une réaction comme ça.
C'est vrai.
Mais je te rejoins aussi sur Mike Christeva, Stéphane, qui annonçait quand même pas mal Trump, quoi.
Aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'était... Non, mais c'est... En fait, même David Lee, moi, je l'adore. Hein. Je suis
désolé, mais oui, on l'adore. On adore le détester, bien sûr. Oui.
Je ne le déteste pas, en fait. C'est ça, le pire.
Tout le monde déteste le fils. Il sert à rien, lui. Zach, c'est non, comment il s'appelle
Oui, Zach. C'est ça.
Insupportable. Ah,
et du coup, ça se termine bien, The Good Wife
Franchement.
C'est franchement l'écart la question. Ouais.
Ça se termine bien, oui, pour l'arc d'Alicia. Franchement, moi, je trouve que c'est très bien. En revanche, pour une fin de série, je ne sais pas.
Disons que c'est pas le meilleur épisode de la série, c'est sûr. Après, je crois que je suis d'accord avec Aki, en fait. Ça se termine bien pour... Enfin, ça conclut bien l'histoire d'Alicia, mais c'est pas... On s'attendait à une explosion. En fait, on a eu une petite explosion. On s'attendait à une grosse explosion, on a eu une petite explosion.
Mais tu t'attendais à quel type d'explosion, Stéphane ?
Je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Je suis parti. En plus, je me suis levé tellement tôt, j'avais regardé l'épisode avant de partir au travail. Enfin bon, c'était voilà. Mais je sais pas ce que je m'attendais, mais en tout cas, j'étais content du résultat. Cette gifle finale m'a bouleversé malgré tout.
Donné par qui ?
M'a laissé pantois, mais ça m'a bouleversé. Et ça m'a fait mal. Et j'ai eu mal avec Alicia. Voilà.
Et du coup, elle a été donnée par qui cette
C'est Diane qui fout une belle tarte magnifique à Alicia parce qu'elle l'a trahi pour pour éviter que son qu'il arrive des merdes quoi.
Ouais, mais je suis trop triste. Bref, ça m'attriste encore.
Oui, mais oui, non, mais c'est dur, hein. C'est oui. dur. D'en arriver là, à ce point-là, et de sacrifier, alors que l'histoire entre les deux femmes, elle était juste, je vais pas dire forcément belle, parce qu'elles se sont quand même fait des coups de pute tout au long de la série, et sur la fin, on voyait que ça commençait à devenir compliqué entre elles, mais on les a aimées ensemble. Elles se sont soutenues lors du moment où c'est du spoiler que tu balançais tout à l'heure, la mort de Will. Et c'est dur de les voir se finir comme ça, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait. On est resté sur une note d'amertume qui fera que, malgré tout, on se souviendra de ce final de série, quoi.
Qui est rare.
Qui est rare.
Et apparemment, cette saison de Diane Lockhart, c'était pas assez. On les comprend. Donc, en 2017, les Kings repartent pour un tour et font The Good Fight. Et vont régner différemment sous l'administration Trump. J'arrive même pas à lire ce mot tout simple. Mais du coup, The Good Fight, c'est un peu un régime de la terreur par l'absurde, mais est-ce que c'est vraiment réussi à qui ? Pourquoi on doit regarder ?
Pourquoi on doit regarder ? Parce que c'est tout ce que vous pensez de la société sans avoir osé le dire. Et la série ose et va même plus loin que ça et pense à des choses auxquelles on ne pense pas et c'est trop bien. Je trouve que c'est, enfin, pour une série entre guillemets de network, oui non, parce que ça reste quand même sur la plateforme digitale, ça ose beaucoup plus que d'autres séries qui se disent provocatives par leur violence ou que sais-je. Là, rien que dans leurs propos en fait, ils sont provocateurs et ça veut dire beaucoup. Voilà.
Est-ce que tu trouves que c'est provocateur ou ils mettent juste des mots sur ce que tout le monde ne veut pas dire tout haut, quoi ?
Bah oui, mais ils le disent quand même d'une façon où ils prennent parti, en fait. Et toutes les séries ne prennent pas parti.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que... Ouais. J'ai l'impression qu'on fait obscur. Parce que ça parle de race, de féminisme...
De politiquement correct,
la cancel culture aussi.
En fait,
ouais. Et en fait, tous les thèmes que tu peux voir traîner en ce moment du côté conservateur, en fait, il les prend à bras le corps et ça essaye de les démonter, mais avec de temps en temps une certaine violence qui est assez jouissive, quoi.
Oui. Bon,
alors, ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas forcément commencé The Good Fight, c'est que c'est l'histoire de Diane Lockhart qui continue.
Qui est obligé de revenir.
Qui est obligé de sortir de sa retraite parce qu'elle a été victime d'un scandale financier. Elle n'a plus aucun sou et elle doit retravailler. Et elle va retravailler dans une firme d'Afro-Américains, exclusivement Afro-Américains. Et à partir de là, ils vont devoir naviguer dans les eaux troubles de l'ère Trump.
Ouais.
Alors que Diane Lockhart est une démocrate acharnée. Et que la démocratie sous Trump, ça n'existe plus vraiment, quoi. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment ça qui rend la série très intéressante. C'est la manière dont ils vont, à travers des personnages qui vont peut-être être moins développés que dans The Good Wife.
Bah après, c'est une histoire de longueur aussi, hein.
Oui. D'accord.
Pour moi, c'est moins la longueur. C'est pas. En fait, on est habitué à ce genre de personnage. On est habitué à l'écriture des Kings, à comment ils construisent par touche, comme tu le disais tout à l'heure, à qui les personnages secondaires, les personnages tertiaires, voilà, tout ce microcosme. Donc, on est habitué à les voir évoluer rapidement, mais pas beaucoup.
Oui, mais enfin, oui et non quand même, parce que je trouve que ce qu'ils sont. Un point sur lequel ils sont forts aussi, c'est de nuancer vraiment leurs personnages. Et malgré le fait que ce soit des saisons de 13 épisodes, là, on arrive quand même à voir des évolutions. Bah, je prends le personnage de Rose Leslie, par exemple, dans la saison 1 et la saison 2, et il n'a rien à voir, quoi. Rien à voir, de A à Z.
Tu veux dire même dans la saison 3, parce que...
Ah, elle est jusqu'en saison 3 ?
Et oui, c'est là où elle part avec,
ah, c'est dans la
avec
Michael 3, oui, pardon, Sheen. 1 à 3, vraiment, enfin... Et au final, elle part, mais on se dit, en fait, c'est normal parce qu'elle a tellement changé quand c'est un départ presque naturel, en fait. Et c'est, ça, c'est bien aussi. C'est pas, on se retrouve pas trahi ou que sais-je.
Oui, mais en fait, pour moi, ce que je voulais dire par là, c'était plus que c'est les événements politiques et sociaux qu'il y a autour qui font évoluer les personnages. On le voit en saison 3, je crois, avec Diane qui commence à se droguer.
Non, elle se drogue pas, elle se microdose.
Si tu veux.
C'est clair, c'est pas pareil. Non, c'est pour ta santé qu'elle fait ça.
Ou même dans la dernière saison, quand elle doit questionner le fait que c'est une femme, mais elle est blanche. Donc, est-ce que son combat doit être plus important ou moins important que les autres, que les minorités qui te battent? Et c'est là où je trouve qu'ils arrivent à faire avancer leur personnage, c'est justement en questionnant la société.
Ouais. C'est vrai. Non, mais honnêtement, j'y repensais encore à The Good Fight. Et à chaque fois là, que je vois un épisode, je me dis... C'est incroyable quand même. Enfin, j'arrive même pas à l'exprimer tellement ils sont, c'est intelligent en fait. Et c'est l'un, pardon, comment dire, ce sont des rares showrunners qui ne prennent pas leur audience pour des imbéciles.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ouais, voilà, parce que, et je dis pas par là que on est hyper intelligent ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je dis. Juste, ils nous prémâchent pas les choses, mais ils réussissent quand même à dire des choses hyper pertinentes. Et après, j'ai presque envie de dire, tu te fais ton avis en fait. Bref, voilà, c'était juste un moment de... incroyable d'admiration, voilà.
Non mais c'est vrai, la série fait beaucoup, elle parle du monde dans lequel on vit et elle te force à réfléchir à des sujets que des fois tu n'as pas envie de... auquel tu n'as pas envie de mettre, je sais pas moi, enfin de passer au moins une minute à te dire, bon, est-ce que je ne serais pas raciste parce que, en fait, je suis blanc et je suis en train de faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas blanches qui n'ont pas le même poste que moi. Donc, mais est-ce que j'ai vraiment envie de penser à ça? Et la série enfonce le clou, elle te met des pièces dans le jukebox et puis tu es obligé de réfléchir. Et tout ça, c'est pas sur un épisode, c'est sur une saison et... C'est intense quoi, de regarder The Good Fight.
Ouais,
c'est intense.
Je suis assez d'accord avec toi, Stéphane, notamment dans la dernière saison où moi ça m'a vraiment interpellé deux fois. C'est une fois sur le contrôle des médias. Donc c'est un procès, j'arriverai pas à expliquer, mais c'est un procès qui est mené par Liz où elle tente de déterminer si le journalisme. En ligne est la même chose que le journalisme papier. Ouais, ouais. Et ça pose beaucoup de questions sur le traitement des médias, sur le fait qu'on a du monopole dans les médias aujourd'hui par les réseaux sociaux, par les rédactions en ligne, par Chumham, oui, tout à fait. Et c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément et qu'après l'épisode, je me suis posé. Et le deuxième exemple où vraiment là, je l'ai pris très à cœur parce que ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, quand Diane, face à Ruth, Bader-Ginsburg.
Oui. Ah oui, et quand elle l'imagine, là. Ouais.
Quand elle l'imagine et que la question, c'est « je suis une femme blanche, mais je devrais laisser les Noirs passer devant moi parce que c'est une minorité qui a encore plus souffert que la mienne ». Moi, ça m'a posé la même question. Comme je suis un homme homosexuel blanc, mais il y a des hommes noirs homosexuels qui sûrement beaucoup plus souffert que moi. Qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu restes toujours dans ton combat ou est-ce que tu vas rejoindre celui qui mérite le plus? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un peu gratte-poil, je trouve, comme sujet, et on n'ose pas vraiment en parler, ou alors ceux qui en parlent souvent sont accusés de wokisme en France.
Non, arrête, c'est un mot horrible.
Malheureusement, ouais. on en est là, et moi je me dis, Robert et Michelle King, avec l'audience qu'ils ont, parlé d'une telle chose sans jugement d'aucune part et en posant exactement les bonnes questions au bon moment, en faisant une série, une fiction, j'ai trouvé ça monumental.
Ouais. Non, mais ouais. C'est vrai. Et il faut dire que là aussi, la saison 5 est quand même assez magistrale de The Good Fight, qui commence très fort quand même avec les attaques du 6 janvier là, sur le Capitole. Il y a le Covid qui vient s'insérer dedans, le Covid long, ouais. Les thématiques dont tu viens de soulever, que ce soit du côté racial, du côté journalisme, du côté politique, du côté judiciaire avec de la démocratie aussi. Enfin, cette saison est folle.
C'est une masterclass. C'est dur en fait. Comment tu penses à tout ça en fait? Voilà. Bah, et après, oh oui, il faut quand même dire qu'ils sont forts. Enfin, leur directrice casting est super forte aussi. Hein. Faut pas sous-estimer là-dessus. Je trouve que tous les guests sont extrêmement bons quand même.
Ouais, y a des acteurs très bons, hein, et qui et franchement, ils sont tous passés par The Good Wife et The Good Fight, quoi.
Et d'ailleurs, on perd une des personnes qui était dans The Good Wife dans la dernière saison, et c'est d'une tristesse.
Oui.
Cut Jumbo.
Ah oui, mais ça c'est trop. Ça pour le coup, c'est vraiment un départ que je regrette énormément. Mais j'aime bien quand même.
Qui n'a pas été par le Covid parce que la saison. Pardon, juste pour préciser, parce qu'elle devait partir en fin de saison 4. Saison 4 qui était tournée pendant le Covid, qui a été interrompue et qui a été amputée de 3 épisodes. Et donc, elle a eu quand même la gentillesse, comme Delroy Delgado, de revenir, qui lui aussi est parti, qui devait partir aussi, qui sont quand même la gentillesse de revenir dans le premier épisode de la saison 5 pour essayer de conclure plus ou moins, même si ça a été rapide et pas forcément très bien fait tout le temps, un départ de personnage, quoi. Enfin, c'était quand même... Surtout que ça faisait combien ? Ça faisait 5 saisons ?
Ouais. Ce départ m'a vraiment attristé, j'ai trouvé qu'ils ont bien réussi... notamment avec sa relation avec Marissa, etc., ouais. À expliquer son départ. Et ça, c'était cool.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Marissa, meilleur personnage aussi
de
The Good Wife et de The Good Fight.
Diane, c'est trop bien aussi. Ouais. Voilà.
Et dans cette saison 5, elle se termine aussi avec un événement assez frappant. Je parle de ce dernier procès, faux procès, mené par Marissa et le personnage de Mandy Patinkin. Où en fait on voit des séparatistes qui veulent faire de leur comté un pays à part entière.
Ils veulent faire sécession, quoi, en gros.
Et ça montre bien à quel point les Kings sont très très forts aussi pour scruter et analyser l'actualité, vu ce qu'on voit autant aux États-Unis que en Ukraine, en France, enfin voilà, partout. Et du coup, pour vous, ça, est-ce que ce serait pas là leur talent ?
Complètement.
C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils anticipent en fonction de l'actualité. Ce que je disais sur que Robert King, il avait partagé les faux tribunaux qui se développaient dans certains États, comme ce qu'ils étaient en train de, ce qu'ils avaient écrit plusieurs mois à l'avance et qu'on voyait nous à l'écran à ce moment donné là, quoi. Ils ont une capacité à anticiper ce qui se passe en Amérique qui est assez folle. Enfin, des fois, ça fait peur parce que tu te dis, mais en fait, ils poussent le curseur très loin et le pays va y aller.
Qu'ils fassent une série de science-fiction, enfin, anticipation dans 10 ans, un peu à la Years and Years, et voilà ce qu'ils et voir ce qu'ils ont fait.
Non, mais même au final, je sais pas si on va en parler, mais Branded, qui était quand même une série qu'ils ont fait, une série estivale sur CBS pendant The Good Wife, c'était quand même très précurseur de l'état de la politique américaine aujourd'hui. Enfin, c'était des gens qui se faisaient bouffer, des aliens qui bouffaient le cerveau et des politiques, et ils faisaient n'importe quoi. Et en fait, au final, tu regardes aujourd'hui la politique américaine, c'est juste des gens qui n'ont pas de cerveau et qui font n'importe quoi.
Oui, mais ça, c'est la politique tout court. Hein.
Je trouve quand même que c'était quand même assez précurseur de la politique sous l'ère Trump et sous le post-Trump, quoi.
Mais justement, après cette administration Trump qui a quand même pris les 4 premières saisons de la série, maintenant, dans la saison 5, on est sous Joe Biden et Kamala Harris. Du coup, c'est quoi l'avenir de la série maintenant ? Qu'est-ce qu'elle va avoir à raconter ? Et est-ce que 13 ans après sa naissance, entre guillemets, Diane Lockhart est toujours relevant ?
Plus que jamais. Plus que jamais. Enfin, moi, je trouve que Diane ne mourra, ou elle mourra sur scène. Hein, c'est pas grave.
Fin de malheur, là, ouais.
mais c'est crucial qu'il continue à parler de l'Amérique de cette façon-là, et parce qu'en fait, il y a beau ne plus avoir Trump, mais Trump a laissé des traces tellement profondes sur toute l'Amérique, qu'en fait, ils vont, même si Biden il est là, d'ailleurs en ce moment Biden il est vraiment très, très mal en point, et Kamala Harris sont là, en fait ça ne changera rien, et même au contraire c'est pire, parce que les Américains sont en train de se rebeller contre les gens qu'ils ont élus là aujourd'hui. Donc,
après, là, on est en train de beaucoup faire porter le chapeau, enfin, de blâmer Trump, mais en fait, les problèmes étaient existants déjà avant. Hein. Enfin, c'est pas Trump qui a non plus tout changé.
Il a poussé le curseur très loin. Hein.
Oui, je suis d'accord, mais ça fait 20 ans qu'on dit que le racisme est beaucoup plus flagrant qu'avant. Enfin, ça change pas, en fait.
Oui, mais en fait, comme on a eu Barack Obama comme président, je pense que nous, Européens, il y a des fois, on se voile un peu la face sur le racisme aux États-Unis.
Peut-être.
Et c'est revenu de manière tellement galopante avec sous Trump que c'est... Que, en fait, on s'est pris tout en pleine face et on n'arrive pas à se dire que, en fait, c'est peut-être l'arrivée d'Obama qui a fait que Trump a pu émerger et est arrivé comme ça.
Et on a beau dire avec Joe Biden, etc., mais il reste un démocrate un peu frileux, si je puis me permettre.
Ah ben, clairement, oui.
Et les choses ne vont pas non plus changer du jour au lendemain. Et je pense que Diane, justement, son personnage peut évoluer dans le sens où elle va aussi voir les limites de ce qu'elle pense être... presque un miracle, pas un miracle, mais ils sont pas sauvés pour autant, quoi, c'est ça que je veux dire.
Ben, c'est ce qu'on a compris, enfin, ce que même Diane a compris en fin de saison 5. Hein.
Bah oui, donc,
elle l'aura mal vécu, mais elle s'en est rendu compte, je pense.
Et après, il faut le dire aussi, je pense pas qu'elle soit une idéaliste, Diane. Autant Marissa est une idéaliste, mais avec l'expérience, etc., elle réalise quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est souvent en confrontation avec Marissa, hein, sur plein de sujets.
Mais de toute façon, ou même avec son mari, hein, qui est un...
Oui, mais ça, c'est normal. Ils sont de deux bords de...
Oui, oui, mais qui est un...
Dans la vie, ça n'existerait pas, ça, d'accord ?
Il y a
pas
de... Républicain convaincu, qui a travaillé sous l'ère Trump et qui a quand même mis de l'eau dans son vin et qui lui a fait voir le monde de manière différente. Mais voilà, quoi.
Du coup, après The Good Fight... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Evil.
Ah.
L'inverse. Bon, j'ai essayé de faire une introduction pour cette troisième série, mais vraiment, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, Stéphane,
oh non.
What the fuck is Evil ?
Evil. Comment résumer ? C'est un prêtre un prêtre en formation qui s'associe avec une psychologue et un mec qui s'y connaît en sciences pour aller étudier des cas qui peuvent être de l'exorcisme, de la possession, qu'est-ce qu'ils font d'autre, des événements paranormaux que l'Église qui titille l'Église, voilà. Et donc, ils sont chargés d'enquêter, de savoir s'il peut y avoir du rationnel dans ce super surnaturel. Voilà.
Et du coup, à qui c'est bien ?
Alors, comme je disais, moi, j'ai pas vraiment regardé parce que ça m'a fait peur. Vraiment. Et je suis assez sensible par rapport à tout ce qui est peur au littéral avec des monstres, etc. Et donc là, le surnaturel existe vraiment. Et... Oui, mais enfin, tu le vois, quoi. Je veux dire, il est quand même.
Tu parles de Georges qui vient embêter.
Oui, d'accord, il me fait peur, Georges, ok. Et toute l'ambiance me fait peur aussi. Hein. Donc en fait, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est hyper d'actualité aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'exorcisme, ça existe toujours dans l'église aujourd'hui.
Ouais.
Et du coup, j'imagine la série un peu, je me dis waouh, ça doit être trop bien et j'ose pas regarder. Voilà.
Mais du coup, Stéphane, tu disais, tu t'avances quand elle parlait de fantastique, de surnaturel. Oui. Pourquoi tu t'avances ?
Parce que je suis un homme de science et que j'ai du mal à croire que tous les cas qu'ils peuvent nous proposer, en fait, sont forcément surnaturels, quoi. Même de temps en temps, on n'a pas de réponse. Mon côté rationnel fait que je ne pourrais pas me dire, peut-être qu'il s'est passé un truc un peu chelou, quoi.
Ça me rappelle...
Le Scully de Mulder, en gros, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Le Scully de Serial Causer, si tu veux. Oui. Voilà. La Christiane Bouchard de Serial Causer.
Oui.
C'est exactement ce que j'allais dire, ça rappelle une autre série, X-Files. Tom, big up à toi.
Et alors, pour le coup, il y a du X-Files, un peu, je trouve, mais moi, je vais avoir oublié le nom maintenant. Non, bah attendez, je vais retrouver le nom. C'est la série avec Adrien Pasdar, là, putain. Mysterious Ways, voilà.
Ah, oh, mais c'était nul, ça.
Bah oui, mais c'était quand même la même chose, plus ou moins la même, le même pitch de départ que...
Ah, mais c'est vrai, c'est vrai.
Et qui, là aussi, te laissait, en fin d'épisode, décider de savoir s'il y avait du rationnel ou du surnaturel. Quoi.
Mais tant mieux.
Mais qui était beaucoup moins politique et beaucoup moins axé actualité que Evil peut l'être aujourd'hui, quand même.
Mais en fait, donc du coup, les quelques épisodes que j'ai vus, j'avais déjà bien aimé la discussion sur la religion, etc., qui est un sujet que j'aime beaucoup, en fait. Je trouve que la religion, beaucoup de gens détestent pour des raisons propres, mais je trouve que c'est pas forcément justifié. Personnellement, moi, je suis pas croyante, mais j'admire beaucoup les gens qu'ils sont, et parce que, tout simplement parce qu'ils arrivent à croire en quelque chose de presque surnaturel pour les autres.
Ouais.
Et bah ça, c'est déjà c'est fort, en fait. Et ouais, c'est un peu philosophique, leur discussion, j'avais bien aimé.
Si je peux te donner un conseil, parce que ça me fait quand même mal au cœur que tu me dises que tu t'es arrêté. Si tu pouvais... ça va être dur, hein, parce que bon, c'est vrai que la saison 1 est terrifiante, énormément.
La 2 aussi.
La 2...
Non, mais bon, je peux pas regarder les choses moins... en tout 10 ans, les enfants. Donc, si vous voulez, comment dire, j'ai oui, vraiment peur.
Est-ce que t'as vu la séance est-ce que t'as vu quand il y a une dame qui accouche d'un monstre?
Non mais super quoi. Non mais tu sais, non mais je peux pas. La dernière fois encore, je t'ai dit, j'ai fait des cauchemars d'un truc à la con, tu vois, donc je peux pas.
D'accord, ok. Vraiment.
Alors qu'étrangement, pour moi, l'épisode qui m'a fait le plus peur, et j'ai jamais peur les films d'horreur, ça me fait rire. Evil, ça me fait presque me pisser dessus. L'épisode qui m'a fait le plus peur, c'est un épisode où justement on ne voit strictement rien. C'est l'épisode 7 de la saison 2, S6 for Silence, où en fait c'est un hommage notamment à l'épisode Hush de Buffy, où ils sont dans un couvent, et non pas un couvent, un monastère,
ouais.
Et ils n'ont pas le droit de parler sous peine de libérer un monstre. Qui est millénaire, qui est enfermé dans ce couvent.
Et qui est gardé par des moines, ouais. C'est un monastère, parce que c'est pas un couvent, c'est des moines.
Et je pense très sincèrement que c'est l'épisode le plus abouti de Robert et Michelle King depuis le début de leur carrière.
Ah ouais, autant que ça.
À ce point-là, ouais.
Et je lisais quand même qu'il y avait pas mal de comédies malgré tout ce qu'on...
Ah mais c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement drôle.
Ça m'énerve de pas pouvoir regarder, je vous jure. Oh là là.
Justement, dans cet épisode, il y a une scène qui est hilarante où, en fait, on voit le prêtre en train de prier et on voit par image qui défile en bas comme des sous-titres ses pensées. Et en fait, on se rend compte qu'il est censé prier et il s'imagine en train de coucher avec sa collègue. Et c'est hilarant parce que... Je trouve ça tellement intelligent de représenter les pensées comme ça, quand ça divague dans nos têtes, qu'on regarde à l'extérieur et on ne sait pas à quoi on pense. J'ai trouvé ça mais tellement bien fait,
Encore une fois, je trouve que la série, extrêmement audacieuse. Moi, je crois que c'est vraiment la marque de fabrique pour moi des King. Et ça se retrouve dans Evil, dans les deux saisons. D'ailleurs, la saison 2 vient de commencer sur Salto. Jetez-vous dessus.
Et d'ailleurs, il y a eu un changement. Enfin, là, ils sont passés sur Paramount Plus et plus sur CBS.
Oui.
C'est ce qu'ils disaient pour la saison 2, ça se voyait.
Et ils ont pu mettre des jurons dedans, donc ils étaient contents. Et voilà.
Okay.
Voilà. Et d'ailleurs, un peu plus de sexe aussi.
Dans la saison 2.
Ouais.
Oui, un peu plus de sexe en effet, et c'est pas forcément du sexe qu'on a l'habitude de voir à la télé.
Non. J'ai peur.
Et c'est beaucoup plus plus sanguinolent aussi, mais moi je l'ai trouvé, elle fait moins peur, mais elle est beaucoup plus sanguinolente et c'est beaucoup plus gênant et beaucoup plus je sais que Tom il aime pas, mais malaisant. Ça, je trouve que ça résume pas mal de choses.
En fait, par rapport à la saison 1, je trouve que la saison 2 repose moins sur l'horreur que, comme tu dis, sur la gêne, l'inconfort.
Ouais.
L'inconfort,
j'aime bien ça, oui.
Le fait aussi qu'on commence à avoir des réponses, ou on a l'impression d'avoir des réponses, et que pourtant les personnages pètent tous totalement un câble. Donc la raison se barre alors qu'on commence à nous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et j'ai trouvé ça excellent, la preuve avec la mère de Kristen, Et son trip avec Leland, qui est joué par Michael Emerson, où en fait, pendant 10 épisodes, on les voit jouer au chat et à la souris et avec d'autres personnes qui, en allant vers un but qu'on ne comprend même pas, on les voit faire des choses totalement absurdes, totalement maléfiques, totalement surnaturelles.
Et glauques. Vraiment très glauques, même.
Mais pourtant, il n'y a jamais rien qui nous confirme à 100% que, en fait, ils ne sont juste pas complètement tarés. Et j'ai trouvé ça super dans une série de réussir à maintenir ça et à le faire dans les personnages principaux. Parce que vraiment, c'est la moitié de la série, quasiment, qu'on voit ces personnages. C'est des personnages qu'on a appris soit à détester, soit à aimer en première saison.
Mais ce qui est encore plus flagrant, c'est avec le parcours de Kristen sur la saison 2.
Exactement.
Qui perd complètement les pédales. Alors, à un moment donné, on te fait comprendre plus ou moins qu'elle pourrait être possédée. Et ce qui aurait du sens, parce que vu ce qu'elle fait, qui n'est vraiment pas normal, tu te dis, OK, meuf, je peux comprendre. Puis après, il y a sa raison qui te dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas être possédée, j'ai des problèmes psychologiques, je veux voir mon psy, je vais me prendre des cachets. Mais puis, on est sur une ligne de crête pendant toute la saison, ça aussi. Et puis... Et puis après, tu as des révélations et tu dis, ah ouais, ok, d'accord, bon, mais ok, merci.
Et tout ça.
Mais, vivement la saison 3, hein, les gars.
Et tout ça en construisant en plus une mythologie qui est quand même très importante. Elle prend.
Oui, oui.
Enfin, on a des cas à la semaine, comme on disait tout à l'heure pour The Good Wife, des cas à la semaine, mais une mythologie qui est assez importante.
Ouais. Et qui fait plaisir à voir. Parce que des séries horrifiques de cette ampleur-là, on n'en avait pas beaucoup. Il y avait l'adaptation de The Exorcist, la série, qui, je trouve, par certains côtés, se ressent pas mal avec Evil. Et comme j'aime beaucoup, ça me fait plaisir de voir cette même ambition du côté mythologique.
Bon, du coup, c'est bien Evil.
Oui, oh, c'est bien.
Pourtant, ça reste un peu niche encore. Enfin, peu de gens le connaissent, etc.
C'est vrai que c'est peut-être la série des Kings la plus confidentielle.
Moi je miserais sur Brain Dead. Hein.
Bah, justement, c'était parfait. Sans transition. Previously on Brain Dead. Some kind of meteor came down, no one knows where it's from. They shipped it off so they could study it in Washington. Guess what, it's filled with space bugs. Now they're loose and eating people's brains. Du coup, Brain Dead, c'est la dernière série dont on n'a pas parlé. Ou quasiment.
Il y a The Bite aussi.
Oui, mais The Bite, on ne va pas beaucoup en parler parce que je.
Non, c'était nul.
Non, mais c'était fun. Franchement, c'était fun. C'était pendant la pandémie, tu n'avais pas trop de moyens et je trouve qu'ils en sont bien tirés. Hein. Bref. Brain Dead. Oui, okay. Brain Dead. Parti trop tôt. RIP.
Brain Dead, le vilain petit canard, le petit rejeton. À qui c'est quoi?
Alors. Donc, Stéphane m'a un peu mentionné déjà, donc ça se passe dans le milieu politique où on s'aperçoit qu'en fait, des politiciens se sont fait bouffer le cerveau, littéralement, par des extraterrestres, en gros.
Qui ressemblent à des fourmis.
C'est horrible, c'est atroce. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça... Une fois qu'ils ont bouffé ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais n'importe quoi, que t'as plus d'inhibition, que... tu vas travailler pour la destruction du monde, en gros. Mais subtilement, quand même. C'est pas aussi flagrant que ça. Donc, tu vas juste faire passer des lois qui ont pas de sens, des trucs comme ça, quoi. Et effectivement, c'est rigolo, quoi, parce que la politique aujourd'hui, c'est tout à fait ça. On comprend. Nous, en tant que spectateurs, on n'y comprend rien. Et tu te dis, si c'était vraiment fait bouffer le cerveau, ben on verrait pas de différence.
C'est
franchement.
Le pire, c'est que c'est ça, quoi.
Et il y avait un casting de folie.
Ah, Marie-Elisabeth Winstead.
Ah oui. Même Aaron Tveit était bien, quoi. Oui.
Aaron Tveit est toujours bien.
Ouais. Et non, c'était vraiment sympa. Je pense que le côté absurde était trop cheap, en fait. Parce qu'il faut le dire, les scènes où ils se font bouffer la cervelle, c'était pas des plus belles, pas très propres non plus. Et oui, ça n'a jamais su se trouver son audience, malheureusement.
Bah, après, c'était une série estivale sur CBS. Donc,
après, il y a des séries estivales qui font 5-6 ans. Hein,
Oui, mais là, il y avait de l'audace aussi et ça, elle n'a pas payé. Quoi.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Brain Dead ne se termine pas forcément avec une fin. vraie, une fin fermée, parce qu'on leur a pas fait la confiance aveugle qu'on leur faisait aujourd'hui. Mais du coup, pour vous, ça aurait été dans quelle direction par la suite, si on devait imaginer?
Eh bien, j'ose pas imaginer, pour pas me frustrer. Pour le coup, cette fin-là, moi, me convient très bien.
C'est la fin. Enfin, la fin, c'est la fin, quoi. C'est quoi la fin déjà?
C'est le coup de que tout le monde se faisait.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la fin du monde. Enfin, oui.
Et bon, il y aurait forcément eu des survivants, mais enfin des survivants, parce qu'ils sont tous vivants, mais avec un cerveau, quoi. Non, je sais pas. Moi, ça me va très bien. J'ose pas imaginer. Je sais pas s'ils avaient vraiment pensé à faire une saison 2, mais moi, ça me va. Ça restera cette petite série de 13 épisodes complètement folle et où tu chantes, tu danses et ouais. Tu ris énormément. Et puis voilà quoi. C'était très bien.
Pourquoi toi, tu l'envisageais autrement, Maxime ?
Non. C'est que moi, justement, à la fin des 13 épisodes, j'étais frustré. J'étais frustré qu'on s'en contente entre guillemets, que ça s'arrête là, parce que je trouvais que l'univers était très drôle et en même temps on disait des choses, que j'adore les deux acteurs principaux, qu'ils fonctionnaient tellement bien ensemble. Ouais. J'avais pas envie de m'arrêter là. C'est juste ça.
Mais le problème, c'est qu'une fois que tu commences avec King, t'as envie d'en voir plus, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi.
Bah, d'ailleurs, on a envie de voir plus de The Bite.
Non. Par contre, pour moi, c'est une erreur de parcours, mais c'est pas grave.
Mais je pense, franchement, vous êtes durs. Moi, je pense qu'on se rend même pas compte des conditions qu'ils avaient pour cette série, pour ce projet-là. Et avec le temps qu'ils avaient aussi, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça respectable. Hein.
Mais en même temps, c'est très bien, c'est passé sur Spectrum, personne ne l'a vu.
Bah, oui.
En fait, personne ne se rend compte, à part Audra McDonald qui est venu le présenter à Sérimania. Je pense que, enfin voilà.
Je suis sûre qu'elle s'est éclatée en faisant ça, franchement.
Mais je n'en doute pas.
À mon avis,
je suis sûre que tout le monde s'est éclaté en le faisant. Mais sauf que quand toi tu le regardes, tu te fais chier comme un ramor et tu trouves ça con. Donc.
En fait, on voit clairement que c'est un petit projet de Covid confinement et qu'ils avaient 6 épisodes à faire. Ils ont fait ça avec les moyens du bord parce que le cadrage est merdique à chaque fois.
Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Oui. Enfin, je sais pas.
Oui, mais moi j'ai passé, en vrai, sur The Bite, j'ai passé un bon moment. C'est pas une mauvaise série, c'est pas Gossip Girl.
De suite.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours plutôt bien écrit dans les dialogues. Le scénario révolutionne pas le genre non plus, il joue bien avec l'effet confinement et bon, c'est quand même Audra McDonald et Taylor Schilling, donc ça passe.
Le problème, c'est que j'attendais autre chose de la part des Kings, quoi. Donc, cette petite parenthèse-là, peut-être que dans 10 ans, quand je la regarderai, peut-être que j'y verrai, ah tiens, c'était ça le confinement, et voilà ce que ça a donné. D'accord, ok. Pourquoi pas, c'est plus sympa. Mais là, aujourd'hui, non, je me dis non. Moi, les Kings, c'est Evil, c'est The Good Wife et The Good Fight, et je veux du gros calibre, quoi.
Bon, du coup, j'ai une dernière question. Vu que tu veux du gros calibre, on attend quoi maintenant des Kings ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Où est-ce qu'on veut qu'ils aillent ?
Là, ils vont adapter un podcast, si j'ai bien compris.
Happy Face.
Ouais.
Je ne connais pas. J'ai peur, parce que moi, les adaptations de podcasts en série, je ne vois pas forcément l'intérêt, mais bon, après, voilà. Quoi.
Alors,
on verra.
L'histoire, ce sera toujours pour Paramount Plus, et l'histoire, c'est en gros, c'est un true crime, le podcast.
Ouais,
ils en font un drama, et ce sera sur la fille d'un serial killer qui, je crois, change d'identité pour ne pas être lié au crime de son père.
Un peu de bon sens, quoi.
Ouais, oui, déjà.
Mais en vrai, j'aimerais bien les voir dans une vraie comédie, parce que dans tout ce qu'ils font, dans les drames, il y a quand même un aspect comique. Mais ils n'ont jamais vraiment fait de la comédie pure, quoi, un format 20 minutes, 20, enfin 30 minutes même. Et je serais curieuse d'avoir leur take on that, comme on dit.
Ouais. Mais en tout cas, je suis très content qu'ils aient trouvé une maison chez Paramount Plus, enfin chez CBS Studio, mais c'est bien. Et on leur fait confiance, on leur donne des projets, on leur donne des sous. Moi, je suis partant, quoi.
Ok, bah parfait. Eh bien, merci Stéphane.
Mais c'est avec plaisir, toujours.
Merci à qui ?
De rien, Maxime.
On se retrouve bientôt avec Tom, cette fois-ci, malheureusement.
Ça va lui faire plaisir, tiens.
Allez, au revoir.
Alors, au revoir.
Bye.